que tu vas attendrir notre cœur pour recevoir ta parole. Seigneur, donne-nous un esprit de foi que nous te connaissions mieux. Je prie cela dans le nom de Jésus. Amen. Amen.
Ah, yes, I forgot to dismiss the kids.
Ah, j'ai oublié de libérer les enfants.
Do their weekly exodus.
Pour qu'ils fassent leur exode hebdomadaire.
And when I titled the sermon, "You will do greater things than Jesus," Janet said, "Well, that's kind of provocative."
But that is exactly
what Jesus told us. We would do greater things.
Janet m'a dit, ah, mais ce titre est provocateur.
John chapter 14, verse 12.
Mais moi, je pense que c'est vraiment ce que Jésus nous a dit.
I say to you, whoever believes in me,
en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera même de plus grandes, parce que je vais vers mon Père. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai.
This I will do. That the Father may
afin que la gloire du Père soit révélée dans le Fils.
If you ask me anything,
si vous me demandez quelque chose
name,
en mon nom, je le ferai.
Will do it. Wow. These are two incredible statements.
It says, deux déclarations incroyables.
So Jesus isn't just talking to the 12 disciples, he's talking to all of his followers. And saying, whoever believes will do the works that I've been doing, and even greater works.
And then, if
we might misunderstand, he says, ask me anything. Ask me anything.
And I'll do it.
Whatever you ask for, I'll do.
Tout ce que tu demandes, je le ferai. Je sais pas
d'autres sujets,
mais... Mais moi, ça me surprend et ça me remplit de joie. Par exemple, hey, Jésus, est-ce qu'on
ne
peut pas diminuer la température à 21, 22? Ce serait super. Mais ça n'a pas eu lieu. Ça n'a pas eu lieu. Non, mais attends, je croyais que Jésus nous disait qu'on peut lui demander tout ce qu'on veut en son nom et qu'il le ferait.
What does that mean?
Mais qu'est-ce que ça
veut dire?
Does
that mean that I've somehow misunderstood what Jesus said?
A dit?
Or
ou bien,
is there something
est-ce qu'il y a quelque
wrong with
chose
the way I asked it?
D'erroné dans la manière dont je l'ai formulé?
Or am I not one of the whosoever
believes? Est-ce que je ne suis pas un de ces gens dont Jésus parle, du croyant. Comment est-ce qu'on comprend cela? Bien sûr, moi j'aimerais vraiment qu'il fasse 21, 22 degrés au lieu qu'il fasse aussi chaud. Comment est-ce qu'on nous comprenons cela?
It's important that we do.
C'est important que nous
because Jesus means what he says. He's not making false promises
ce qu'il
to
dit.
Us.
Il ne fait pas
but
des
what
fausses
does he
promesses
mean?
À nous. Mais qu'est-ce qu'il veut dire?
And why is it that when I see this promise,
quand je vois cette promesse,
the first thing that comes to my
mind
are some of the things that I would like to make my life more comfortable or to make my life better.
C'est les choses que j'aimerais lui demander pour rendre ma vie plus confortable. Que ce soit la température qui diminue.
The heat wave had already broken. I would have said, Jesus, I'd like my bank card to just always have money.
Seigneur, j'aimerais que ma carte de crédit me donne toujours de l'argent. Que j'aurais pas besoin de me soucier de quoi que ce soit.
You said you would do whatever I ask, so do that.
Seigneur, tu m'as dit que je peux demander ce que je veux, donc Seigneur, voilà, je m'attends à toi.
I began just asking the question. It starts by saying,
mais je veux commencer plutôt en réfléchissant à cette question. Quand il dit, quiconque croit en moi fera les œuvres que j'ai faites. Donc qu'est-ce que ce sont ces œuvres?
How it is used in the Bible,
quand nous regardons à cela dans la Bible, ça fait référence à différentes choses. Donc, ça fait référence à ce qu'une personne fait. Ce qu'une personne fait, ce sont tes œuvres. Si je vous demande, qu'as-tu fait hier soir, enfin hier, pardon, et alors tu listes toutes les choses que tu as faites, ça, ce serait tes œuvres.
So Jesus is saying
donc Jésus dit,
that whoever believes in me will do the types of things that I have been doing.
De choses que j'ai faites.
But there's another important meaning.
Il y a d'autres significations au mot œuvre.
Miracles.
Et la deuxième signification, c'est les miracles.
That Jesus did.
Les choses
his
surnaturelles que Jésus a
were
faites.
His works.
Il y avait de la guérison.
His going to the cross was his work. His rising from the dead was his work.
His
calming the
storm
was his work. His raising
the
dead was his work. All of these miracles that pointed to who he was and that he had come from the Father were his work. So when Jesus says, whoever believes in me will do the works that I have been doing,
quand il dit que quiconque croit en moi fera les œuvres que j'ai faites, il parle de ces deux choses, de ces deux types d'œuvres. Il y a un élément surnaturel à cela.
And when you think of all the miracles that Jesus did,
quand tu penses à tous les miracles que Jésus a fait, tu es impressionné. Donc tu te dis, ça veut dire ce type de puissance-là.
Not only that, he said,
mais non seulement il ne dit pas ça, il dit aussi des œuvres plus grandes. Pas juste les mêmes œuvres, mais tu feras aussi des œuvres plus grandes.
Well, what does that term greater mean?
Donc, qu'est-ce que veut dire ce mot plus grand?
More extraordinary,
ça veut dire plus extraordinaire,
of greater
merveilleux,
of greater
de plus grand poids et de plus grande importance.
I have a hard time imagining.
Alors moi, j'ai une difficulté à m'imaginer des choses de plus grande importance.
How do I put it? A greater drama, perhaps? More astonishing miracles?
Quelque chose de plus spectaculaire.
I mean, raising the dead is
je veux dire,
pretty amazing.
Ressusciter les morts,
feeding
c'est déjà impressionnant.
Pretty amazing.
Nourrir 5000 personnes, c'est impressionnant.
Pretty amazing. And yet somehow,
c'est aussi
Jesus says,
impressionnant de guérir les malades.
Things.
Et pourtant, Jésus dit, tu feras des choses encore
nice.
Plus grandes que celles
more
que j'ai faites.
Extraordinaire.
Plus extraordinaires.
Of greater weight,
de plus grand poids, de plus grande importance. Les œuvres que tu feras seront plus impressionnante que celle que j'ai faite. Et ça, c'est ce que Jésus dit. C'est ce qu'il nous promet. Il nous dit, et il dit aux disciples,
his disciples in the context,
il dit à ses disciples,
are in, in a state of being
ses disciples sont dans un état de confusion parce que Jésus leur a dit qu'il allait mourir à la croix et que Judas est un traître et que aussi Pierre va le trahir. Et après, il leur dit aussi qu'il va leur préparer une place.
Si vous croyez en moi,
et maintenant, il leur dit, si tu crois, si vous croyez en moi, les œuvres, le travail va continuer et ce travail sera plus grand, plus incroyable, plus extraordinaire par rapport à ce que vous avez connu. Et je vous appelle à cela. Et c'est important que nous, que pendant que nous regardons ce passage, nous surlignons vraiment que ceci se passera parce qu'il va au Père, auprès du Père.
But my work
il dit, je vais aller auprès du Père, mais mon travail va
and
continuer,
like
mes œuvres vont continuer.
Together in complete security because I was with you,
et vous étiez pleinement en sécurité parce que vous étiez avec moi et j'étais là avec vous. Et maintenant que je m'en vais, Vous pouvez me demander ce que vous voulez et ça vous sera donné. Le ministère et le travail va continuer et ça va être plus grand et plus merveilleux.
And then he moves on in verse 15 and
et il continue au verset 15.
If you love me, you will keep my commandments.
Si vous m'aimez, respectez mes commandements. Quant à moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur, afin qu'il reste éternellement avec vous. L'Esprit de la vérité que le monde ne peut pas accepter, parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez, car il reste avec vous et il sera en vous. Jésus est en train de dire à ses disciples, « Je pars. Si vous m'aimez, vous ferez ce que je dis. Si vraiment vous vous souciez de moi, vous serez obéissant envers moi. Et ce sera une obéissance basée sur l'amour. Et ce sera une obéissance basée sur l'amour que vous avez pour moi. Et l'amour que... Et moi, je vous enverrai l'Esprit Saint. Vous le connaissez, il a été avec vous pendant tout ce temps. C'est lui qui vous a ouvert les yeux au sujet de qui je suis. Il était avec vous jusqu'à présent et maintenant, il sera en vous. Le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est venu et il est venu demeurer dans les croyants. Si vous êtes disciple de Jésus, le Saint-Esprit habite en toi. C'est le Saint-Esprit qui t'a attiré à la foi en Jésus-Christ et tu as reçu le Saint-Esprit. Mais maintenant, attention, soyez attentifs. Jésus a dit au verset
17
que le monde ne peut pas accepter le Saint-Esprit et il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez car il reste avec vous et il sera en vous. On ne parle pas de l'esprit de main mystique que chaque personne possède. Jésus dit tout à fait autre chose. Il ne dit pas « tout le monde a l'esprit ». Il dit « pour le croyant en Jésus-Christ, il y a une différence fondamentale. Toi, tu as la troisième personne de la Trinité » qui habite en toi. Il y a quelque chose de de différent, vraiment très différent. Il y a vraiment une différence entre toi et une personne que tu connais qui n'est pas croyant. Il y a une différence fondamentale. Et le Saint-Esprit est venu pour être une aide, pour t'habiter et pour t'enseigner ce que Jésus veut, pour que tu puisses vivre une vie en obéissance à Jésus. C'est fondamentalement différent du reste du monde. Jésus venait juste de dire qu'il est dans le Père et que le Père est en lui et qu'il y a cette unité entre lui et le Père et
qu'il
dit qu'il ne fait vraiment que ce que le Père lui dit de faire. Il dit qu'il fait uniquement les œuvres que le Père lui dit de faire. Et il dit, je vais maintenant au Père. Et quand je partirai, le Saint-Esprit va venir et habiter dans le croyant. Et il va lui enseigner tout ce que Dieu veut que nous fassions. C'est énorme. Au chapitre 16 du livre de Jean,
John chapter 16.
Chapitre 16.
Starting with verse 6.
Au verset 6.
He says this.
Il dit, mais parce que je vous ai parlé ainsi, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité. Il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, la justice, parce que je vais auprès de mon Père et que vous ne me verrez plus, le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Quand le défenseur sera venu, l'esprit de la vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Il révélera ma gloire parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Saint-Esprit vous est donné pour que vous puissiez marcher en obéissance avec le Seigneur. Et une des choses qu'il va faire, le Saint-Esprit, c'est qu'il va commencer à convaincre le monde de péché, de justice et de jugement. Jésus a passé 3 ans dans le ministère. Il a passé 3 ans à déverser sa vie dans les disciples. Les 12 particulièrement, mais il y avait un groupe un peu plus large que ça, qui le suivait et qui l'écoutait. Et à la fin, il dit, attendez à Jérusalem pour que vous receviez la puissance d'en haut. Il y avait 120 personnes qui attendaient à Jérusalem. 3 ans de ministère et 120 personnes qui le suivent. Et il leur a dit spécifiquement d'attendre à Jérusalem. Le Saint-Esprit vient le jour de la Pentecôte. Et Pierre est debout et explique ce qui se passe. Et des milliers viennent à la foi en Jésus-Christ. Et des milliers viennent à la foi en lui. Le changement d'un non-croyant à un croyant nécessite le Saint-Esprit qui prend un cœur mort et le ramène à la vie à nouveau. Il n'y a pas de miracle plus grand dans le monde qu'une personne qui est morte dans ses péchés et qui devient vivante en Jésus-Christ. Il n'y a pas de plus grand miracle. Il n'y a pas de plus grand miracle que cela. Et Jésus dit à ses disciples, les œuvres, le travail continue. Quiconque croit en moi fera ce que j'ai fait. Et voici ce que j'ai fait. Tout ce que le Père me dit de faire. Il y a des moments où le Père me dit « Guéris des gens. » Et en obéissance, je guéris tout le monde. Il y a des moments où je marche et je remplis dans une pièce qui est remplie de monde malade, mais le Saint-Esprit me dit « Guéris cette personne. » Cette personne-là. Mais en fait, Jésus, voilà, il y a plein de gens qu'il n'a pas guéri. Par exemple, quelqu'un qui avait attrapé un froid et qui marchait là dans la rue. Mais lui, il guérissait ce que Dieu lui montrait par le Saint-Esprit. Et de la même manière, nous voyons les disciples, les apôtres après la Pentecôte, qu'est-ce qu'ils font ? Ils prêchent l'Évangile et beaucoup viennent à la foi en Jésus-Christ. Et aussi, de temps en temps, les gens sont guéris. De temps en temps, les gens sont guéris lorsqu'ils répondent à ce que le Saint-Esprit leur dit de faire. Vous comprenez ? Jésus promet des œuvres plus grandes que celles-là. Paul, dans le livre d'Actes, dans le livre des Actes, il est sur un livre, pardon, sur un bateau, et il y a une vraie tempête.
Et
Jésus, lui, quand il était dans la barque et qu'il y avait la tempête, il a calmé la tempête avec rien qu'en disant « Maintenant, la mer, calme-toi ». Et Paul, lui, quand il était dans un bateau et qu'il y avait une vraie tempête, Paul a dit « Nous allons arriver sur une île. J'en suis convaincu. Nous allons atteindre une île. » Et pourquoi n'a pas dit « Tempête, calme-toi » Parce que le Saint-Esprit lui a dit autre chose. Paul marchait en obéissance à Jésus-Christ, au Saint-Esprit qui habite en lui. Et le résultat, c'est quoi ? C'est qu'ils ont réussi à atteindre un rivage et Dieu a commencé à travailler sur cette île. Et les gens sont venus à la foi sur cette île. Et c'était un plus grand miracle que juste calmer la mer. Jésus, encore et encore, nous dit que pendant que nous vivons notre vie chrétienne, nous devons vivre en obéissance à lui. Quiconque croit en moi fera les œuvres plus grandes que je fais. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Quiconque a mes commandements et les garde, c'est lui, ça veut dire qu'il m'aime. Au chapitre 14 de Jean, verset 31, je fais ce que le Père me dit de faire pour que le monde sache que j'aime le Père. Et Jésus nous dit que nous devrions être tellement intimes avec le Saint-Esprit que les gens voient que nous sommes vraiment intimes avec lui et que nous faisons ce qu'il nous dit. Au début du sermon, j'ai dit, Jésus, baisse cette température. Est-ce que c'était un commandement du Saint-Esprit ? Non, ce n'était pas le Saint-Esprit qui me disait de baisser la température. Vous savez, je viens du Minnesota et pour moi, il fait chaud à partir de 15 degrés. Cette demande que j'avais à Jésus, elle n'est pas fondée sur ce que Dieu me demandait de prier. Si nous vivons comme Jésus a vécu, nous devons vivre en obéissance, pas après pas, à Jésus. Et nous verrons alors nos prières qui seront répondu. Vous savez, nous ne devons pas prier des prières égoïstes. Dieu répond à nos prières si nous marchons avec lui. Des fois, Dieu va nous utiliser pour faire des choses plus grandes que Jésus. Des fois, ça veut dire faire des miracles, mais en général, c'est annoncer l'Évangile. Parce que rappelez-vous, la régénération du cœur humain, c'est le plus grand miracle.
Janet asked me a question.
Jeanette m'a demandé, m'a posé une question. Parce que là où nous habitons et quand nous réfléchissons à ça, par exemple, si nous savons que nous avons un ami qui est dans le besoin, qui est malade ou qui a besoin d'un travail, comment est-ce que je dois prier à ce sujet ? Voici mon conseil. Premièrement,
you're living in a relationship.
Tu vis en relation avec le Seigneur.
And I think it's perfectly fine.
Et je pense que c'est vraiment. Ce n'est pas un problème d'avoir une conversation au sujet de cette situation avec Dieu. Et dire et de lui dire, Seigneur, cette personne, elle est malade, elle souffre. J'aimerais vraiment que tu enlèves cette peine. Voilà là où j'en suis, Seigneur. Moi, j'aimerais qu'il se passe ça. Et je pense que c'est tout à fait correct d'avoir cette conversation. Mais à un autre niveau, nous devons demander à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu fais dans cette situation ? Qu'est-ce que tu fais ? Mon ami n'a pas de travail. L'argent est en train de s'épuiser. Seigneur, ils ont besoin d'un travail. Mais qu'est-ce que tu fais, Seigneur, ici ? Comment est-ce que tu œuvres dans cette situation ? Comment puis-je prier pour que ton royaume vienne dans cette situation ? Et écoute non seulement l'enseignement des Écritures, mais aussi au Saint-Esprit qui habite en toi. Parce que si ça se trouve, le Saint-Esprit va vraiment te demander de prier complètement autre chose. Vous savez, ce que Dieu fait dans la vie de cette personne est bien, peut-être bien plus profonde que ce que tu puisses penser. Peut-être que la perte de ce job vient de Dieu. Et ils expérimentent des années de chômage et ça peut venir de lui parce qu'il essaye de leur enseigner de lui faire confiance que c'est un Dieu à qui tu peux faire confiance et qu'il est celui qui pourvoit au pain quotidien. Donc, priez, Seigneur, donne-lui un travail. Dans cette situation, ce n'est pas le cœur de Dieu parce que Dieu veut leur donner bien plus qu'un travail. Il veut leur donner un don de foi et de confiance en lui pour qu'ils puissent obéir à Dieu peu importe les circonstances, pour qu'ils puissent témoigner de la bonté de Dieu et que dans ce témoignage, son royaume avance et les gens viennent à la foi en lui et que Dieu, par ce biais-là, reçoit une gloire énorme. Donc, quand nous voyons quelqu'un dans le besoin, il n'y a pas de souci d'avoir une conversation avec Dieu. Mais je veux vous dire, ajustez cela en disant, Seigneur, qu'est-ce que tu fais dans cette situation ? Montre-moi comment je dois prier. Et je prierai alors en obéissance à cela. Et quelquefois, le Saint-Esprit te dira, dis à cette personne, lève-toi et marche. Et quand nous avons vraiment entendu le Saint-Esprit, la puissance de Dieu sera lâchée et la personne sera guérie. Est-ce que ça a du sens pour vous ? Et il fait cela parce qu'il veut le plus grand miracle, un plus grand miracle, de changer le cœur des gens et leur apporter la gloire de Dieu en amenant les gens à la foi en Jésus-Christ.
Donc,
tu te dis, « Oh, mais attends, est-ce que toute guérison ne pourrait pas amener les gens à la foi ?» Non. Vous savez, vous entendez des histoires de docteurs qui ont été impressionnés par des cancers qui sont guéris par la prière, et les docteurs qui sont impressionnés et qui se disent « Mais comment cela a pu se passer ?» Alors les gens, ils disent « Ben, vous savez, des gens dans l'église ont prié pour moi, dans l'église, mais ils m'ont dit « Je dois quand même aller voir le docteur et vous pouvez voir que je suis guérie. » Et le docteur, de manière instantanée, obtient la foi en Jésus-Christ. Mais vous savez, non, ce n'est pas ce qui se passe. Souvent, les docteurs se disent, non, il y a une autre explication à cela. Donc, vous savez, les guérisons n'amènent pas toujours les gens à la foi en Jésus-Christ. Mais quand le Saint-Esprit nous pousse à cela, nous pouvons... Il faut que nous ayons foi et que nous ayons foi que Dieu va le faire. Ce passage est un appel à cibler nos vies sur l'œuvre de Jésus. Et nous devons obéir à ses commandements qui viennent en premier par la Bible et qui viennent également par le Saint-Esprit qui habite en nous. Et nous ferons par cela des œuvres plus grandes qui auront un impact encore plus grand et qui impacteront les nations du monde. Et un jour, les nations du monde seront rassemblées autour de son trône et il regardera ses disciples et il dira, vous voyez, je vous ai dit, je vous ai dit, tu feras des œuvres plus grandes que moi. Prions. Père, merci. Merci pour cette parole. Seigneur, aide-moi dans mon incrédulité. Aide-moi à ne pas penser que cette parole est trop belle pour être vraie. Aide-moi quand je sais que dans certains moments, j'ai le sentiment que le Saint-Esprit m'a poussé à faire quelque chose, mais que j'ai douté et que je n'ai pas obéi parce que j'avais peur. Seigneur, aide-moi dans mon incrédulité. Donne-moi la foi. Et je prie cela pour toutes les personnes ici, que tu nous donnes la foi et l'intimité avec le Saint-Esprit qui nous a été donné pour que nous fassions vraiment les œuvres de Jésus et même des œuvres plus grandes que celles-là pour la gloire du Père. Je le prie dans le nom de Jésus. Amen.